J'ai une très bonne question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous certain que votre nom est inscrit dans le livre de vie de Jésus? Écoutez bien la réponse de Dieu à ce sujet aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Est-il possible que les questions suivantes soient des questions que tu as déjà posées? Les voici. Est-ce que je dois consulter Dieu dans tout ce que j'entreprends? Est-ce que je dois chercher à connaître sa volonté en toutes choses? Une fois que le Seigneur est dans ma vie, est-ce que je peux me contenter simplement d'être sauvé ou est-ce que je dois grandir spirituellement? Est-il possible de grandir dans la foi et la connaissance du Seigneur? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire dans le livre de vie de Jésus? Est-ce que Dieu me connaît? Il n'y a jamais trop de questions pour Dieu. Il aime se révéler, se faire connaître davantage à nous. On peut donc s'attendre à ce qu'il nous donne encore des réponses aujourd'hui, par l'entremise de son serviteur, Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu! On attend avec joie toutes les réponses que tu vas nous donner aujourd'hui. On veut se réjouir en toi. Alors fais-nous du bien par ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Maintenant, nous allons poursuivre notre étude de la vie de Joseph. Jacob a décidé de rejoindre Joseph en Égypte. La main de Dieu sur la vie de Joseph va devenir de plus en plus évidente maintenant. Faisons une petite mise au point. À la dernière émission, nous avons vu que les frères de Joseph sont retournés vers Jacob et qu'ils lui ont raconté leur aventure en Égypte. Ils lui ont dit que Joseph était encore vivant, qu'il était devenu gouverneur de l'Égypte et qu'il désirait que son père vienne s'y installer. Je pense que son père voulait simplement visiter Joseph, mais, chose certaine, il avait quelques hésitations. C'est pourquoi Dieu apparaît à Jacob au début du chapitre 46, car Dieu avait dit à Abraham de sortir d'Égypte lorsqu'il avait eu des ennuis dans ce pays. Dieu a dit la même chose à Isaac. Maintenant, Jacob se demande s'il devrait aller en Égypte. Il a besoin de plus que l'invitation de son fils Joseph et de Pharaon pour être entièrement persuadé que c'est la volonté de Dieu. Il a besoin que Dieu lui donne le feu vert. Et c'est cela que Dieu va faire. De plus, la dernière fois que Dieu est apparu à Jacob, il lui avait dit de se rendre à Bethel. Maintenant, nous voyons que Jacob veut aller voir son fils, mais je pense qu'il voulait aller en Égypte seulement pour un bref séjour, petite vacance, quoi, et ensuite retourner en Canaan. Mais il n'y est jamais retourné, sauf pour s'y faire enterrer. Premier verset le dit. Genèse, chapitre 46, verset 1er. Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Sheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Le chrétien doit consulter Dieu. Jacob s'est mis en route avec tout ce qui lui appartenait. Il s'arrêta à Beer-Sheba. Notez une chose étonnante. Jacob offre des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Rappelez-vous la première fois qu'il a quitté Canaan pour aller à Charan et qu'il est passé à Bethel. Il ne cherchait pas Dieu, mais il prenait plutôt la fuite et il ne cherchait pas à connaître la volonté de Dieu. C'est tout un contraste avec le serviteur d'Abraham qui n'entreprenait rien sans s'adresser à Dieu. Par contre, Jacob a pris de nombreuses décisions sans consulter Dieu. Il ne s'appuyait pas sur Dieu. Il ne pensait pas avoir besoin de Dieu. Il lui fallut du temps avant d'apprendre que ce n'était pas la bonne façon d'avancer dans la vie, que ses motifs n'étaient pas bons, surtout pour un homme de Dieu. Combien de chrétiens passent toute la semaine sans penser à Dieu, sans chercher la volonté de Dieu, sans chercher à en tenir compte? Ils prennent leurs propres décisions, font ce qu'ils veulent, et le dimanche, ils deviennent subitement des personnes très spirituelles. Ils attendent le dimanche pour faire la volonté de Dieu. Ces chrétiens pensent que la volonté de Dieu consiste simplement à aller à un temple et assister à un culte, peut-être enseigner l'école du dimanche. Et le dimanche soir, en allumant leur téléviseur, ils disent « Au revoir à Dieu pour le reste de la semaine ». Ils ne tiennent pas compte de Dieu au cours de la semaine. Jacob était ainsi. Il ne consultait pas Dieu, mais maintenant, il le fait. Il s'est arrêté à Beer-Sheba, en route pour l'Égypte, et il a offert des sacrifices à Dieu. Dieu va l'accueillir. Il va recevoir les prières de Jacob et même lui apparaître. Écoutez ceci. Le verset 2 de Genèse 46. Dieu parla à Israël. Dans une vision pendant la nuit, il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Dieu a promis à Jacob qu'il ferait de lui une grande nation dans le pays de l'Égypte. La question, est-ce que Dieu va le faire? Si vous voulez bien tourner au premier chapitre du livre d'Exode, au verset 7, nous lisons. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il y eut une croissance démesurée de ce peuple en Égypte. Comment expliquer cela? Dieu tient simplement parole. Nous lisons le troisième verset de Genèse 46. Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Oui, chers amis, Dieu tient ses promesses. Poursuivons les versets 4 et 5 de Genèse 46. Dieu dit, « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beer-Sheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Rappelez-vous, Pharaon avait fourni des chars. Ils y mirent Jacob ainsi que les femmes et les enfants, et ils partirent. Jacob était entré dans le pays de Charan, en s'appuyant sur son bâton. Il l'avait toujours, mais il ne marche plus, ni ne court avec celui-ci. Il est allé à Charan en marchant. Il est sorti en fuyant son beau-père Laban. Ensuite, il eut peur de rencontrer Ésaü, son propre frère. Maintenant, nous remarquons du progrès chez Jacob. Il est un homme de foi. Nous allons voir un homme de foi en Égypte. Illustration ici de la croissance spirituelle. Comme nous l'avons vu au début de la vie de Jacob, il y a trois périodes dans la vie de cet homme qui correspondent à trois lieux géographiques. Dans le pays de Charan, nous avons vu Jacob marcher par la chair. De retour dans le pays de Canaan, nous avons vu Jacob lutter. Maintenant, il se rend en Égypte où l'homme de foi se manifeste. Ces trois lieux géographiques correspondent à trois périodes spirituelles dans la vie de Jacob. Ceci est aussi vrai au sujet de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Avant d'être croyants, nous avons passé un certain temps hors du royaume de Dieu. Puis nous avons entendu le message de l'Évangile et nous avons invité Jésus-Christ dans notre cœur comme un merveilleux sauveur. Cela fut suivi d'une période de lutte au cours de laquelle nous pensions pouvoir fonctionner avec nos propres forces. Ensuite, nous avons grandi dans la foi et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est là et il peut agir parfaitement. Tout comme dans la vie de Jacob, il l'a encouragé à se rendre en Égypte. Mes amis, nous sommes sur le point de regarder la section suivante. Et si vous y avez jeté un coup d'œil, et vous avez peut-être eu l'envie de fermer la radio en voyant qu'une liste de noms, une longue généalogie, mais je pense qu'il serait utile d'en lire. Mais ne craignez rien, je ne le ferai pas. Mais lorsque nous avons 5 ans pour étudier la Bible, nous ne pouvons pas nous embourber dans des généalogies, même si elles sont importantes. Cependant, je veux que vous remarquiez un détail. Je lis à partir du verset 5. Jacob quittait Beer-Sheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Verset 6. ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il s'y rendait pour une visite, mais il dut tout apporter, car il y avait une famine dans le pays. Sa famille n'aurait pu survivre dans le pays de Canaan. Maintenant, elle va en Égypte. Remarquez ce que précise le verset 7. Il emmena avec lui en Égypte ses fils, les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Il emmena avec lui ses fils, ses petits-fils, et probablement des arrière-petits-fils. Nous avons maintenant cette liste. Cette généalogie conduit jusqu'à Jésus-Christ, et nous y reviendrons alors que nous avancerons dans l'étude de la parole de Dieu. Lisons le verset 8. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben. Les fils de Ruben, je ne poursuivrai pas plus loin cette liste. Ensuite, nous avons les fils de Siméon, les fils de Lévi, les fils d'Issacar, etc., etc. Maintenant, passons au verset 26, car je veux attirer votre attention sur un détail très important. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc, il y eut en tout 70 membres de la famille de Jacob qui descendirent en Égypte, quoique Joseph et ses fils y étaient déjà. Au verset 5 du premier chapitre d'Exode, nous lisons. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Nous avons déjà lu le verset 7 où il est dit que la famille de Jacob fut féconde et qu'elle se multiplia, toujours en rapport avec le livre d'Exode. À cause de leur forte croissance démographique, ils occupèrent le pays. Votre nom est-il inscrit dans le livre de la vie de l'agneau? Je reviens sur cette section, et vous me dites que vous êtes heureux que j'ai sauté cette interminable liste de noms, car vous ne trouvez pas les généalogies intéressantes. Je dois admettre que moi aussi, je peux les trouver ennuyeuses, mais dans cette section, on nous donne le nom de 70 personnes qui sont les fils de Jacob et leurs fils. Pourquoi nous donne-t-on tous ces noms dans la Bible? N'aurait-on pas pu nous donner des renseignements plus importants? En fait, il serait difficile de trouver quelque chose de plus important. Nous avons ici le début de l'arbre généalogique du Christ. Cette lignée se rend jusqu'à Christ. Le livre de Matthieu est introduit par une généalogie. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Et nous trouvons une autre généalogie, avec certains de ses noms, dans le troisième chapitre de l'Évangile selon Luc. Déjà, c'est important pour cette raison. Mais il y a encore un autre détail. Et celui-ci, il est très personnel. Avez-vous déjà entendu parler du livre de vie de l'agneau? Est-ce que votre nom y est inscrit? C'est par la foi en Christ que votre nom y est inscrit. Comme vous êtes de la lignée d'Adam par votre naissance, vous entrez dans la lignée de Christ par la nouvelle naissance. Vous naissez de nouveau en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. En faisant cela, vous devenez un enfant de Dieu. Dieu vous connaît. Combien important êtes-vous pour Dieu? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je ne vous connais pas, et la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas personnellement. Mais Dieu vous connaît. Il connaît le nombre de vos cheveux. Il vous connaît mieux que quiconque. Il vous aime plus que votre mère ne l'a fait ou le fera. Votre mère n'a jamais compté le nombre de vos cheveux, mais Dieu le fait. Dieu vous connaît personnellement. Ces noms ne me disent rien. J'écoutais des nouvelles à la télévision alors que les grands festivals rock étaient à la mode. Quelques centaines de milliers de personnes pouvaient assister à un festival. Il y avait une foule de gens qui n'avaient pas l'occasion de se laver chaque jour. Mais Dieu connaissait chacun d'eux et Dieu les aimait tous. Christ est mort pour chacun d'eux. Lorsque vous regardez un grand stade rempli d'amateurs de football ou de baseball ou dans un amphithéâtre pour assister à un match de hockey ou une grande salle pour jouer au bingo, tous ces gens qui ne pensent pas à Dieu, celui-ci les connaît bien. Oui, Dieu les connaît tous, ils sont précieux à ses yeux. Je ne sais pas qui vous êtes, mais dans ces jours de grande croissance démographique, avec des millions d'individus qui nous entourent, vous êtes un individu unique aux yeux de Dieu. Vous voyez ces généalogies et vous dites que vous n'êtes pas intéressé? Moi non plus. Je ne connais pas les personnes nommées, mais Dieu les connaît et c'est avec plaisir qu'il a inscrit leur nom dans la généalogie parce qu'ils lui appartiennent. Donc je vous pose de nouveau la question. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Lisons le verset 28. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozen. Ils arrivèrent à Gozen. Judas avait déjà visité ce coin de pays. Le verset 29. Joseph attela son char et y monta pour aller à Gozen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Quelle scène exceptionnelle se déroule devant nous! Nous avons déjà entendu parler du fils prodigue qui rentre chez lui. Cependant, Joseph n'est pas un fils prodigue. C'est presque le contraire, car Jacob est un vieux fils prodigue. Mais ce n'est pas le cas de Joseph. Quelle rencontre merveilleuse à laquelle nous assistons! Il se jeta au cou de son père et pleura longtemps. La Bible affirme qu'il pleura longtemps, sans dire combien longtemps. Ce n'était certainement pas une simple poignée de main donnée à la sauvette sans que cela signifie quelque chose. La Bible y rajoute même les émotions. Lisons le verset 30. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Quel bonheur pour Jacob! Je pense que le vieil homme aurait pu en mourir. Cependant, remarquez qu'il a vécu quelques années en Égypte. Il a survécu ce voyage de justesse. Il s'est rendu en Égypte. Maintenant, nous voyons Israël et Joseph qui se voient face à face. Remarquez qu'on l'appelle Israël dans ce verset. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Poursuivons notre lecture de Genèse 46, les versets 31 à 34. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozan, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Le monde aime toujours ses idoles. Dans ce temps-là, ils avaient les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui, à notre époque. Comme des choses que nos voisins pourraient accomplir un dimanche matin. Exemple, la tonte de la pelouse, alors que vous êtes couché, étendu, en train de faire votre dodo. Plutôt que d'être à votre étude biblique du dimanche matin. Les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. C'est intéressant de voir que la parole de Dieu en a beaucoup à dire, car ces gens étaient des bergers. Ils élevaient des moutons, et ils le font encore dans ce territoire. C'est une image du Christ qui est connu comme étant le bon berger. Il est le grand berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il surveille ses brebis aujourd'hui. Il est le chef de son troupeau. Cependant, il doit encore revenir. Mais il est le berger. Il se donne ce titre. Les bergers sont toujours une abomination dans le monde. Le Seigneur Jésus n'est pas accepté de nos jours, c'est-à-dire le vrai Jésus. Oh, pas les idoles qui se sont créées, tous ces théologiens et ces religions! Cette idole ne ressemble rien au vrai Christ que l'on nous présente dans la Bible. Revenons à ce Christ, à ce Sauveur, décrit, révélé par les Saintes Écritures. le Christ qui est né d'une vierge, celui qui accomplit des miracles, celui qui est mort pour les péchés du monde, celui qui est ressuscité. Voilà le véritable berger, le vrai Jésus. Celui qui est décrit, celui qui est là depuis tous les temps, qu'il existe depuis même avant la fondation du monde. Celui qui aime sa création, celui qui aime ce qui a créé. Mais ici, les bergers étaient en abomination aux Égyptiens. Joseph conseille donc à ses frères de dire à Pharaon qu'ils élevaient des troupeaux de vaches. C'était vrai, même s'ils élevaient aussi des moutons. Vous verrez plus loin qu'après leur avoir remis le territoire de Gozen, ils leur remettent aussi leurs moutons, car ils ne voulaient pas s'en occuper. Les enfants d'Israël étaient les bergers de troupeaux de brebis dans les pays d'Égypte. Lors de la prochaine émission, nous allons voir quelque chose de vraiment merveilleux. J'aimerais vous mettre l'eau à la bouche. Nous voyons la famille de Jacob installée dans le pays de Gozen, leur nouveau pays, leur pays pour de nombreuses années à venir. Joseph va présenter sa famille à Pharaon et elle va demeurer dans ce pays, le territoire le plus riche de l'Égypte. Après la mort de Joseph, les Hébreux seront réduits à l'esclavage dans ce pays d'Égypte, mais Dieu sera avec eux à travers toutes ces épreuves. Ils deviendront une grande nation. Et viendra un libérateur, du nom de Moïse. Nous allons faire connaissance avec ce personnage biblique. Surveillez, les prochaines émissions vont nous en parler. Moïse, c'est lui que Dieu appellera pour faire sortir les Hébreux de l'esclavage des Égyptiens. Jusqu'ici, Dieu n'est jamais apparu à Joseph, et il ne le fera pas. Dieu manifeste sa providence dans la vie de Joseph. Et c'est ce que nous découvrons, la providence de Dieu dans les textes bibliques en rapport avec ce personnage qu'est Joseph. Nous voyons qu'il a été envoyé en Égypte pour préparer la venue de sa famille, qui, elle, s'installera en Égypte, se multipliera selon la promesse de Dieu. Vous vous rappelez? Dieu l'a promis. Et devenir plus nombreux au point d'occuper tout le pays. Laissez-moi vous poser une question. Faites-vous partie de la famille de Dieu? Êtes-vous devenu un enfant de Dieu en allant vous réconcilier avec Dieu par le seul et unique moyen, la personne de Jésus-Christ, celui qui se révèle dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien, comme étant le bon berger? Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 14, nous lisons « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Quelle assurance! Faites-lui confiance! Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant et méditant le chapitre 47 de la Genèse.
Merci, Régent. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais personnellement, je me reconnais dans la personne de Jacob. Autrefois, je prenais toutes mes décisions sans consulter Dieu. Je marchais par la chair. Je luttais par mes propres moyens. Mais quand je suis devenue une enfant de Dieu, j'ai commencé à croître spirituellement, à me confier en Dieu dans mes décisions. Puis maintenant, je marche par la foi. Mais j'ai encore besoin que ma foi grandisse. Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et moi, je voudrais bien être agréable à Dieu en tout temps. Mais des fois, je trouve que ma foi est chancelante un peu, et puis je dois demander pardon à Dieu pour mon incrédulité. Alors, je crois donc que plus ma foi va grandir, plus je vais être agréable à Dieu, même s'il m'aime inconditionnellement. On a vu aussi aujourd'hui, à travers la longue liste de noms à partir de Jacob, le début de l'arbre généalogique de Jésus. En naissant de nouveau, en acceptant Jésus comme notre sauveur personnel, on entre dans sa lignée, dans la lignée de Christ. On devient un enfant de Dieu. Es-tu né de nouveau? Jésus a dit à un homme qui s'appelait Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Imagine-toi, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu verras pas le royaume de Dieu, tu verras jamais le visage de Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour toi. Alors, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu arrêtes, que tu écoutes la parole de Dieu. Il faut que tu ouvres ta Bible et que tu cherches sa face. Dans la Bible, c'est écrit ce que tu dois faire pour naître de nouveau. C'est écrit que sans passer par Jésus, tu pourras jamais, jamais, jamais aller au ciel. T'aimerais pas ça? Naître de nouveau? Devenir une nouvelle créature? Moi, je suis née de nouveau, ça fait 26 ans. Et puis, j'aimerais vraiment pas retourner dans l'état où j'étais juste avant de naître de nouveau. Parce que souvent, je voulais mourir tellement je trouvais que la vie de péché dans laquelle je vivais me rendait misérable. Comme dans un des psaumes, il est écrit « J'étais malheureux et il m'a sauvé ». Eh bien, moi, j'étais malheureuse et il m'a sauvé. Le Seigneur m'a fait naître de nouveau. La journée où j'ai reconnu ma culpabilité, je l'ai confessé à Dieu, je me suis repentie, je me suis détournée du mal et j'ai dit « Seigneur, sauve-moi ». J'aimerais faire une prière avec toi aujourd'hui. Si tu n'es pas encore né de nouveau, que cette prière soit la tienne. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur perdu, que je suis sans toi dans le monde. J'aime pas l'état dans lequel je suis. Je désire naître de nouveau. Je désire accepter le cadeau que tu veux me faire aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. T'as payé cher pour me la procurer. T'as dit à la croix, tout est accompli. Et ensuite, tu es mort pour mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort pour moi, pour payer la dette que j'avais à cause de mes péchés. Je reconnais que tu es le sauveur glorieux qui a payé en entier. Et maintenant, je te demande de me sauver, de me donner la vie éternelle. Je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Merci Seigneur pour le cadeau que tu me fais. Merci pour ce beau cadeau de la vie éternelle. Merci Seigneur parce que maintenant je suis dans la joie.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.